Bonjour à tous. Sur France Culture, il est midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, les titres du journal de 12h30, présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, on va parler des municipales en Italie, puisque le mouvement anti-parti 5 étoiles obtient un résultat historique en arrivant nettement en tête à Rome. C'est une jeune avocate de 37 ans qui est bien placée pour devenir la première femme de la capitale, maire de la capitale italienne. On appellera à Rome Mathilde Imberti. Il y a aussi des élections présidentielles, cette fois au Pérou, avec l'ancien banquier de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, qui devance légèrement Keiko Fujimori. C'est la fille de l'ancien chef de l'État, Alberto Fujimori. Nadine Epstein nous évoquera cette situation, mais le score est encore très serré sur ce second tour. On vient de l'apprendre, un Français qui aurait préparé des attentats en France a été arrêté en Ukraine le mois dernier. Le chef des services de sécurité ukrainien affirme avoir réussi à empêcher une quinzaine d'actes terroristes qui étaient planifiés à la veille et pendant aussi le championnat d'Europe de football. En France, pour la 6e journée consécutive, et c'est la 13e, depuis le début du mois de mars, le trafic reste perturbé, notamment pour les intercités, les transiliens. Ces derniers sont par ailleurs toujours touchés par les conséquences des crues. La direction de la SNCF et les syndicats de cheminots entament leur ultime séance de discussion sur l'organisation du temps de travail. Et puis c'est l'heure du bilan pour les inondations. L'État va mettre en place un fonds d'extrême urgence de plusieurs millions d'euros destinés aux sinistrés. L'invité de la séquence interview, ce sera Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Les Républicains de Lyon. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, la Grande Table.
Une Grande Table qui sort de France, mais pour mieux y revenir. En deuxième partie, nous recevrons un philosophe américain qui a la particularité d'enseigner la philosophie à l'Université de Virginie et d'être réparateur de motos dans son garage de Richmond. Ça ne s'invente pas. Deux activités non seulement complémentaires, mais salutaires pour ce philosophe, auteur d'un best-seller sur l'importance du travail manuel qui a fait de lui un conférencier très demandé. Matthew Crawford a passé beaucoup de temps dans des aéroports et il en a tiré le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la crise de l'attention moderne. Il sera notre invité en dernière partie. Mais tout de suite, un romancier qui d'année en année est pressenti pour le Nobel de littérature. Il est à 82 ans le plus grand écrivain hollandais vivant, auteur d'une œuvre prolifique traduite dans de nombreux pays. Cees Not Boom est notre invité. C'était en France il y a quelques semaines pour la publication conjointe de deux livres, un recueil de textes, sorte d'anthologie qui permet d'entrer dans son œuvre. J'avais mille vies et je n'en ai pris qu'une. Œuvre clé de l'auteur Cees Not Boom. Et puis un recueil de poésie, le premier traduit en français. Raphaël Bourgois l'a rencontré à l'occasion de son passage à Paris et lui a demandé comment expliquer que la poésie n'était pas été traduite avant.
Moi, j'ai jamais, il faut dire, jamais poussé ma poésie. Ça vous arrive moitié de votre vie qu'on commence à vous publier. Et on commence par des romans. C'est ce qui s'est passé avec Actes Sud aussi. Et si on a une œuvre qui consiste de des essais, des choses sur l'art, des romans, des récits et de la poésie, c'est la poésie dont je pensais que ce serait trop difficile de le mettre en français. Et c'est pas une poésie toujours très facile, et je me suis dit, voyons. Et à un moment donné, ils ont dit, mais maintenant, on veut absolument faire votre poésie. Et Philippe Noble est venu, et on a travaillé ensemble, avec mon français, disons, qui est quand même le français d'un étranger. Et je trouve que le résultat, pour moi, est acceptable, mais c'est aux Français de le dire. Et là, je suis quand même un peu curieux de savoir comment seront les réactions.
Eh ben, on verra ça, Cessnotbaum. C'est aussi, cette poésie, une façon de rentrer dans votre œuvre. Ça offre une clé, peut-être, pour comprendre vos romans, ou en tout cas, ce que vous appelez la coïncidence des opposés. On est frappé à lire cette poésie, à quel point elle met en avant ce qui apparaît, évidemment, dans les romans, mais de manière peut-être moins concentrée, moins évidente, une certaine façon de cultiver les contraires.
Pour moi, la poésie, c'est le noyau de tout ce que j'ai fait. Mais... ça veut dire aussi qu'avec une certaine forme de poésie, on peut s'aventurer dans la langue. Et on revient de ces aventures avec une sorte de connaissance de langue qui vous aide à écrire des romans. Et sans que ce soit des romans poétiques, si vous voulez.
Alors il y a peut-être autre chose, Cessnotbaum, dans le fait que votre poésie ne soit traduite que maintenant en français. C'est une certaine méconnaissance finalement de la littérature et de la poésie hollandaise ici en France. Je vous propose d'écouter justement votre traducteur, Philippe Noble. Il s'exprimait là-dessus, c'était en 1984, c'est une archivina.
Il est très difficile de dire pourquoi à certaines époques, souvent par des accidents historiques, certaines littératures ont été traduites dans des langues qui sont plus répandues, des langues qui ont une importance mondiale plus grande, et pourquoi pas d'autres. Il est certain qu'il y a eu une époque, par exemple à la fin du XIXe siècle, où on a beaucoup traduit vers le français de littérature qui était jusqu'à cette date-là encore très très peu connue ou même totalement ignorée du public français. C'est vrai par exemple de la littérature russe qui en l'espace d'une vingtaine d'années ou de 20 ou 25 ans a vu toutes ces grandes œuvres traduites en français. C'est arrivé aussi effectivement pour une bonne part pour les littératures scandinaves. Cela n'est pas arrivé effectivement pour le néerlandais. J'avoue que je n'ai pas de réponse. On aurait, le problème n'existerait plus. Mais il me semble que, sans vouloir prêcher le nationalisme intégral, il me semble que, tout en reprochant à juste titre au reste du monde de les ignorer un peu, les Néerlandais n'ont pas toujours été, et je dis bien les Néerlandais, je ne parle pas des Flamands, la Belgique c'est un problème tout à fait à part, mais il me semble que les Néerlandais ont été dans l'histoire peu conscients de la valeur de leur propre culture et de leur propre langue, et ont hésité à l'exporter à l'étranger.
Vous êtes d'accord avec ce constat, Cessnotbaum?
Oui, je dois être d'accord, et je vous donne un exemple. Les Français ont colonisé une partie du monde, comme les Espagnols et comme les Anglais. Et eux, ils ont laissé leur langue. Le français, en Afrique coloniale, au Maroc, etc. Les Néerlandais en Indonésie, on est allé là pour des raisons commerciales et on n'a pas du tout forcé les pauvres Indonésiens à parler le néerlandais. Seulement la couche supérieure des Indonésiens à parler le néerlandais, mais c'est pas général. Par exemple, quand je vais maintenant dans cette semaine que je partirai pour Pérou, là tout le monde parle espagnol. Et ils ont fait mieux que nous.
On reparlera à Cessnotbaum.
J'aurais un beaucoup plus grand public dans ce sens-là.
Si vous écriviez en espagnol? Ou si le hollandais était parlé.
Non, si le hollandais était
parlé,
établi.
Évidemment. Établi en Indonésie, c'est vrai que c'est un pays assez important d'un point de vue démographique. Cessnotbaum, vous parliez de l'importance de la poésie pour vous, l'importance centrale. Il y a un moment dans votre vie, entre votre deuxième et votre troisième roman, il s'est écoulé 17 ans, que vous avez consacré à la poésie justement, et aussi, on peut dire, une écriture plus documentaire, du reportage, des voyages que vous faisiez. Vous aviez besoin de voir le monde, et expliquez-vous. Il y avait aussi besoin d'une certaine façon de faire ses adieux au roman, enfin un adieu pour mieux le retrouver quelques années plus tard.
Non, de mieux comprendre ce que c'est écrire un roman. Or, j'avais commencé, si on veut, trop tôt, très jeune, ma vie, disons, française a commencé faisant de l'autostop dans les années 50. Et là, je suis venu à la Provence. Ça m'a donné l'idée d'un roman. J'ai écrit ce roman, qui était un roman culte chez nous. Et
Philippe et les autres.
Philippe et les autres, oui. Et après, il y a un livre, et votre nom est dessus. Et tout le monde vous dit « écrivain ». Et j'ai compris que c'était pas si facile que ça, qu'il faudrait réfléchir. Et j'ai réfléchi sur le thème. Avant, j'ai fait autre chose. Je me suis fait matelot pour travailler sur un bateau vers l'Amérique latine. J'avais 22, 23 ans.
C'est une histoire d'amour qui vous y amène.
Oui, 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 ça aussi. Mais quand même, je voudrais, parce que j'avais compris que pour écrire des romans, il faut quand même une certaine connaissance du monde. Et je ne l'avais pas, parce que j'avais commencé, si on veut, trop tôt. Je crois pas, finalement, ça m'a pas nui, mais c'était un roman, disons, conte de fées, très poétique, très jeune. Et après, j'ai écrit un roman sur le problème de l'écrivain. Là, c'est trop compliqué un peu pour l'expliquer, l'idée du roman. Mais c'est un romancier qui laisse un manuscrit qui n'est pas complet, un autre écrivain pour le finir. Et lui, il se suicide, le premier écrivain. Et plus tard, j'ai pu dire avec une certaine ironie que je l'ai fait faire par un écrivain dans le livre pour ne pas le faire moi.
Justement, vous parlez d'ironie. Dans ce livre, J'avais bien mille vies et j'en ai pris qu'une. Donc, un ensemble de textes choisis par votre ami et philosophe Rüdiger Safranski. Rüdiger Safranski dit que dans cette période de 17 ans, entre 73 et 80, qui sépare votre deuxième de votre troisième roman, vous êtes passé de l'onirisme à l'ironie. Vous avez découvert l'ironie en quelque sorte.
Oui, oui. Il dit que ce qui s'est arrivé avec moi, c'est la sorte du romantisme. Que les romantiques aussi, ce sont finalement... Il y a justement aujourd'hui une exposition sur Klee, et j'ai entendu le radio allemand ce matin parler de cette exposition où ils ont dit que, selon Schlegel, le philosophe allemand, l'ironie et le romantisme ont fait ensemble une combinaison étrange dans l'œuvre. Ben, je crois oui. Il a raison, mais...
Il y a aussi la question de l'imagination dans votre œuvre, Cess Notbaum. Et j'aimerais savoir si pour vous, l'imagination, c'est le fruit d'une réflexion, véritablement, ou est-ce que c'est le fruit, finalement, de vos voyages, quelque chose de beaucoup plus sensoriel ?
Bien, en voyageant, j'ai voyagé toujours, tout le temps, dans tous les continents. Ça aide, vous êtes seul quand vous voyagez, au moins souvent. On a le temps de réfléchir, on a le temps de regarder et on étudie quand même le monde. Et comme ça, j'espère acquérir une certaine connaissance du monde. Et puis, on est seul dans les chambres d'hôtel, on est seul comme dans la cellule d'une moine. Et voilà.
Est-ce qu'il faut rappeler que à 17 ans, vous vouliez être moine, Cess Notbaum ?
Oui, ça a été un des plus grands malentendus de ma vie, mais quand même hallucinant, parce que j'avais visité un monastère trappiste, et ce sont des vies extrêmes, et l'extrémisme, de certaines façons, m'a toujours attiré. Et je suis allé au abbé, et j'ai dit, monsieur, je voudrais... Mon père, je voudrais entrer dans ce monastère. Il doit avoir vu immédiatement que pour moi c'était impossible. J'étais probablement, étant très jeune, j'étais très transparent aussi. Mais il n'a rien dit. Il a dit, je vous mets dans une cellule, je vous donne l'avis du Saint Abélard, je crois, en latin, et un dictionnaire, et un bloc-notes, et un crayon. Vous allez traduire. Et après quelques jours, moi je me suis enfui. Mais cette contradiction dont vous parliez dans votre première question est toujours restée là, parce que quand je voyage, par exemple, le dernier livre qui n'est pas encore traduit en français s'appelle Saigoku, c'est justement un pèlerinage à travers des monastères bouddhistes au Japon. Un pèlerinage qui date du Moyen-Âge. Et là... Quand je vois ces vies, ça m'attire toujours. Sauf, j'ai pas le, disons.
La vocation, peut-être.
Mais pas la vocation, sans doute.
Il y a, Sesnotbaum, un écrivain dont vous avez été très proche, qui est l'écrivain belge Hugo Claus, dont on a retrouvé la voix et qui définit deux types d'écrivains. J'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à ce que dit Hugo Claus.
Je m'ennuie assez vite. Donc, je change de genre parce que l'idée de devoir me fixer sur une ligne m'ennuie terriblement. Donc, c'est simplement le fait que je ne peux pas vraiment m'occuper d'une chose à la fois. Il y a deux types d'écrivains. Il y a les écrivains qui font un sillon et qui s'acharnent à trouver eux-mêmes, leur propre psychologie, leur âme. Et puis, il y a les joueurs qui changent et qui sont un peu folâtres et qui croient que leur âme, peut-être qu'ils vont la rencontrer quelque part. Donc, j'appartiens au deuxième type, celui du joueur, et donc j'ai besoin de sensations autres. Non seulement j'écris, je fais de la mise en scène, je danse pas mal des claquettes aussi. Mais tout ça ne peut pas avoir un rapport avec l'autre, parce qu'autrement il y aurait une osmose, une soupe dans laquelle je mourrais.
C'est Sesnotbaum. Quelque chose me dit que vous êtes plutôt aussi du côté du joueur.
Peut-être, mais premièrement, je voudrais dire que c'est mouvant d'entendre un mort, parce que c'était un grand ami. On s'est connu depuis 56, et j'étais là dans la dernière semaine de sa vie. J'écris un poème là-dessus aussi, dernière semaine de sa vie, parce qu'on savait qu'il avait décidé de mourir parce qu'il avait Alzheimer. Et cette dernière semaine, avec quelques amis, une semaine de cérémonie d'adieu, c'était très très mouvant, et c'est mouvant aussi parce que j'ai parlé à côté de son cercueil au dernier moment. Et là j'ai dit, revenez en revenant pour nous disturber. Et on me demande de temps en temps, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il revient? J'ai dit oui, par exemple maintenant, il revient le savoir, c'est ça, j'avais raison. Et c'est très proche.
C'est aussi une façon, Sesnotbaum, de vous faire entendre cette voix un peu d'outre-tombe, comme vous venez de le dire, d'aborder un aspect important de votre œuvre. C'est notamment le rapport à la mort et aussi le rapport entre l'histoire, la mémoire, le présent, le réel, l'imaginaire, le fait... Qu'est-ce que ça veut dire d'être là maintenant? Est-ce qu'on est porteur d'un passé, d'un futur qui vient vers nous? C'est quelque chose qui court dans toute votre œuvre, poétique et romanesque.
Oui, il y a poétique et romanesque, oui. Mais je dois dire, j'ai pas fait, disons, des études académiques. Mon monastère a été le monde. Et là, j'ai regardé, et on voit beaucoup si on fait attention. Et là, on réfléchit, et de cela viennent les choses que j'écris. J'ai pas un programme. Mais
vous dites souvent que les livres viennent à vous.
Oui, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai écrit ce roman qui s'appelle en français L'histoire suivante, c'était une commission. Et c'était une commission, il y a chez nous une sorte de chose qui s'appelle la semaine du livre. Et dans la semaine du livre, un livre est donné cadeau à chacun qui achète un livre dans cette semaine. Ça veut dire que le tirage est de presque 1 million de livres. Et on m'a donné cette commission. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux écrire pour 1 million de gens? Ça, je ne peux pas, parce que je suis pas un écrivain pareil. Et j'avais pas d'idée. Je suis allé à Lisbonne. Et pendant une semaine, j'ai écrit tout ce que j'ai vu. Restaurant, bateau, rivière, circonstances, débats.
Épuisement d'un lieu, on dirait.
Et je suis revenu chez moi dans mon studio en Espagne, et j'avais tout le décor du roman, sauf les personnes. Et là, je me suis simplement mis devant le papier, et c'est venu. Ça, comme si c'était préparé il y a longtemps, à l'intérieur, sans que je le sache.
C'est un peu à l'inverse de votre façon habituelle de travailler, Sesnotbaum, puisque d'habitude, c'est plutôt les personnages qui guident votre façon d'écrire.
Vous savez, j'étais une fois dans la chambre de travail de William Faulkner à Oxford, Mississippi. Et là, sur le mur, il y avait lundi, mardi, mercredi, etc. La Semaine Sainte, c'était le, disons, le tramine, l'idée de son roman, le Fable. Et là, j'ai vu, il y a des écrivains qui savent tout à l'avance, comme Nabokov, par exemple. Je suis jaloux, mais je ne l'ai pas. Alors, moi, je dois me mettre dans un vide. Et là, du vide surgissent, j'espère, quelques personnages. Et dans ce cas de l'histoire suivante, c'est arrivé.
Il n'y a pas beaucoup de métaphores. Il n'y a que quelques métaphores essentielles. Par exemple, il y a cette métaphore inépuisable du temps et du fleuve. L'idée de penser que le temps coule. Bien, ça, c'est une métaphore essentielle. On ne veut pas s'en passer. On ne veut pas s'imaginer le temps autrement. Quoique, on peut penser, par exemple, que le temps vient du passé à l'avenir, ou sinon, comme le philosophe anglais Bradley, que le temps vient de l'avenir et qu'il coule vers nous. C'est-à-dire que nous nageons contre le courant, non? Mais enfin, je dirais que cette métaphore du fleuve et du temps est une métaphore essentielle. Puis, il y a une autre métaphore essentielle, serait l'idée de vivre et de rêver. Tandis que si on emploie ces métaphores éternelles, ces lieux communs, alors on est sûr de trouver, on est sûr d'être reçu par l'imagination du lecteur.
Vous avez reconnu Cessnotbaum, Borges.
Borges, oui, je me suis dit, parce que j'ai jamais entendu Borges parler français. Je l'ai entendu une fois à Londres. Et en anglais, sur ce métaphore, il faut dire la chose, parce que je viens d'écrire un livre sur Hieronymus Bosch, et on m'a mis au Prado devant, je ne sais pas comment en français ça s'appelle, cet wagon après le foin, avec le foin.
Ah, une charrette.
Une charrette, oui. Or, on m'a demandé au Prado, pour la documentaire qu'on va faire pour l'exposition, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et j'ai dit, bien, j'étais ici il y a 60 ans et j'ai vu cette peinture. Cette peinture a resté matériellement la même chose. C'est du bois et de la peinture. Mais ce qui a changé, c'est pas la peinture, c'est moi. Et selon Héraclite, on ne descend pas deux fois dans le même fleuve. Et j'ai dit non, moi j'ai dit toujours autre chose. C'est la fleuve, l'eau passe autour de vous, et bien, c'est une autre eau si vous voulez. Mais c'est vous qui avez changé. Et moi maintenant, regardant cette peinture, je suis 60 ans plus vieux, mais je me suis dit... Cette peinture était dans la chambre de travail de Philippe Segond. Après, il y a eu la Révolution française, il y a eu le fascisme, le communisme. Et des gens qui ont regardé cette peinture ont toujours changé à travers l'histoire. Et maintenant, on ne peut jamais voir cette peinture comme Philippe Segond l'a vue. Et c'est ça peut-être que Borges a voulu dire.
C'est ce que dit aussi Marcel Duchamp, c'est le regardeur finalement qui fait la peinture. Vous consacrez un poème à Borges, vous dédiez plutôt que consacrer un poème à Borges dans ce recueil Le visage de l'œil, qui commence justement par un fleuve, Rio de la Plata, la tempête fouette l'eau. Toi qui peux voir encore, tu mets en mots la ville qui disparaît dans le nom de ses lettres. L'estuaire, l'océan, le voyage d'hiver du poète. C'est la première strophe. Pourquoi avoir voulu consacrer ce poème à Borges?
Un, parce que je l'admire. Mais deux, il avait raconté lui-même qu'il a fait ce voyage à l'Europe, cette fois-ci en bateau. Il a jeté un petit coin,
une pièce
de monnaie dans l'eau. Et il se fait des pensées sur ce qui passe avec ce petit pièce de l'eau. Et moi, finalement, parce qu'il fait une comparaison avec l'œuvre d'un poète, que finalement, on va pas se rappeler de lui, on va peut-être même pas se rappeler de son œuvre, peut-être il reste dans la langue une expression, une petite phrase, une chose. Et ça, c'est ce qu'il voulait, de certaine manière, il voulait l'oubli. C'est le contraire de ce que veulent beaucoup de gens, ils veulent être...
Encore là. Souvienne, ouais.
Mais et j'ai fait la comparaison avec cette petite monnaie et la réputation d'un grand écrivain comme Borges.
Cessnotbaum, c'est aussi cette réponse finalement à un poème de Borges, quelque chose qui correspond à votre style et à la nécessité, ou en tout cas à l'envie que vous avez de toujours répondre à la littérature, de vous inscrire dans la littérature, ce qu'on pourrait appeler, avec un terme un peu savant, l'intertextualité. Vous êtes proche d'un écrivain anglais qui s'appelle Adam Ferwell, qui a théorisé cette question de voilà comment les textes se répondent entre eux.
Oui, enfin, ce livre-là de Thoreau, qui s'appelle, en français, je ne me rappelle pas, mais...
C'est le livre multiple.
Oui. Ah, oui, parce que, en anglais, c'était Mrs. Herbert. Parce que Miss Herbert était l'amante anglaise de Flaubert, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Et ils ont apparemment travaillé ensemble à une traduction de Madame Bovary, donc, qui est complètement disparue. Non, ce livre-là de Thoreau, très intéressant. Mais intertextualité, oui, si on lit, lire et voyager, ce sont les deux côtés de ma vie. Et par exemple, Borges, Bioy Casares, l'autre Argentin, a noté pendant toute la vie tout ce que disait Borges. Ça sortit maintenant en espagnol, maintenant il y a 2 ans. Et là, Borges parle... Par exemple, beaucoup de Gombrowicz. Pendant cette session où il était dans le Westminster Abbey à Londres, on avait le droit comme public de poser des questions écrites. Alors j'ai écrit ma question, qu'est-ce que vous pensez de Gombrowicz, parce qu'ils vivaient ensemble à Buenos Aires. Pas de réponse. Et maintenant j'ai compris pourquoi. Parce que Borges, qui est le grand savant et le grand saint de la littérature, etc., il pouvait être aussi très...
Qu'est-ce que vous voulez dire, parce que...
côté,
mesquin.
Côté un peu de menaçant, je ne sais pas, ah. Il a dit des choses. Ah, ce pédéraste polonais noble, ce n'est qu'un escritorzuelo. Petit écrivain.
Un écrivain.
Il était là quand même assez dur contre Gombrowicz, que j'aime. Il y a un malentendu qui existe pendant les lectures, non, entre les lecteurs. C'est que si on aime écrivain A, nécessairement écrivain A doit aimer aussi écrivain B que vous aimez. Non, souvent ce n'est pas le cas. Nabokov détestait Dostoïevski, etc.
Cessnotbaum sur cette pièce pour piano pour quatre mains de Georgi Kurtág, un compositeur hongrois qui, je crois,
que je connais.
Vous est particulièrement cher.
Je
ne
connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup de musique
beaucoup.
De lui, oui.
Donc, Cessnotbaum, on peut lire de vous aux éditions Actes Sud ses poèmes dans Le visage de l'œil, enfin ce recueil Le visage de l'œil, J'avais bien 1000 vies et je n'en ai pris qu'une. C'est une façon de rentrer dans votre œuvre avec le regard de Rüdiger Safranski, un philosophe qui vous est particulièrement cher.
Oui, philosophe, son dernier livre c'est sur le temps, mais qui a écrit des biographies extraordinaires sur Heidegger, sur Nietzsche, sur Schiller, mais il, tout dernièrement un grand best-seller en Allemagne et aussi en Hollande sur Goethe.
Merci beaucoup Cessnotbaum d'avoir été notre invité.
Un plaisir, merci.
Et outre Le visage de l'œil et J'avais bien 1000 vies et je n'en ai pris qu'une de Cessnotbaum, qui sont ses 2 derniers livres traduits en français, 17 livres sont disponibles en français aux éditions Actes Sud dans une traduction de Philippe Noble. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table.